Voilà, je vais maintenant donner la parole à notre camarade Arlette Laguille.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, affirmons-le, notre organisation se revendique des idées communistes. Depuis que Marx a donné à ses idées un fondement rationnel, le courant communiste a toujours existé dans le mouvement ouvrier. Au long de son histoire, ce courant a été incarné à certains moments par des petits groupes, voire par quelques individus isolés, et à d'autres moments par des partis importants influençant une majorité de travailleurs. Ce courant a toujours affirmé que l'avenir de la société passe par la disparition de la propriété privée, la mise en commun des richesses et des moyens de les produire, afin que l'on produise en fonction de ce qui est nécessaire pour tous et non pas en fonction du profit pour une minorité capitaliste. Karl Marx a légué à ce courant une analyse scientifique de la société capitaliste comme une étape dans le développement de la société humaine, contrairement à ceux qui, à son époque, comme aujourd'hui, affirmaient qu'avec le capitalisme, l'organisation sociale avait trouvé sa forme définitive avec des lois éternelles, sinon avec des lois naturelles. Marx considérait que le capitalisme, qui avait représenté un progrès pendant une période donnée de l'histoire, en ceci qu'il avait permis un accroissement considérable des forces productives, et bien que ce capitalisme aurait sa vieillesse, où il serait dépassé par les forces productives que lui-même avait créées, et devenu à son tour un obstacle au progrès de l'humanité, le capitalisme devrait alors céder la place à une nouvelle forme d'organisation sociale. Marx considérait ainsi que le capitalisme serait la dernière forme d'organisation sociale basée sur la division de la société en classes aux intérêts divergents ou opposés. La dernière forme d'organisation sociale où une minorité concentre entre ses mains l'essentiel de la richesse sociale et exploite et opprime la majorité. Ce que Marx nous a légué aussi, c'est l'analyse de ce qui, dans le développement même du capitalisme, annonce l'organisation de la société future sans exploitation, où l'humanité pourra enfin maîtriser consciemment sa production et ses rapports sociaux. Alors oui, nous nous revendiquons du marxisme, dont les idées fondamentales ont gardé toute leur actualité malgré l'évolution de l'économie capitaliste depuis Marx. Les idées de Marx se sont répandues dans la deuxième moitié du XIXe siècle, d'autant plus naturellement dans la classe ouvrière, qu'elles correspondaient aux sentiments profonds de cette classe. D'autant plus naturellement que c'est l'exploitation elle-même qui poussait un nombre croissant de travailleurs à défendre collectivement leurs intérêts matériels et leur dignité en créant toutes sortes d'organisations, en créant des mutuelles, des syndicats. Les travailleurs les plus conscients étaient tout préparés à l'idée propagée par les communistes que leur classe était porteuse d'un autre avenir pour l'humanité. Et c'est autour de cette idée que s'est créée l'Association internationale des travailleurs, la première internationale. Et un peu plus tard, Marx étant déjà mort, quand surgirent et se développèrent des partis. On disait à l'époque parti social-démocrate ou parti socialiste, dont le plus influent était le parti social-démocrate allemand à partir de 1870. Rosa Luxembourg, qui était une des grandes figures de ce parti, disait même en substance que la social-démocratie allemande n'était pas seulement un parti de la classe ouvrière, mais qu'elle était la classe ouvrière elle-même. La suite montra malheureusement que ce n'était pas tout à fait vrai et que la direction de ce parti, que son appareil issu des couches de la classe ouvrière les plus influencées par la bourgeoisie, se révéla incapable de jouer le rôle qui aurait dû être le sien lors de la conflagration qu'a été le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Et au lieu de résister à la pression des bourgeoisies engagées les unes contre les autres dans une guerre sanglante où chacun cherchait surtout à élargir sa sphère d'influence économique et à accroître ses pillages, eh bien les partis sociaux-démocrates basculèrent dans leur grande majorité du côté de leur propre bourgeoisie et justifièrent la guerre. Par là même, ils privèrent le prolétariat de toute perspective propre, l'enchaînant derrière leur bourgeoisie nationale contre leurs frères de classe qui étaient de l'autre côté de la frontière. La social-démocratie donna alors des ministres au cabinet de guerre de part et d'autre des lignes de front. Et lorsqu'à partir de 1917, le prolétariat commença à se soulever contre la guerre, et pas seulement en Russie, mais aussi en Allemagne et dans un grand nombre d'autres pays, il trouvera partout les dirigeants de la social-démocratie sur son chemin et contre son combat. C'est pourtant des rangs de la social-démocratie que surgit en Russie le parti bolchévique, qui allait représenter la continuité du mouvement communiste révolutionnaire contre les dirigeants socialistes qui avaient trahi. Avec le parti bolchévique, le prolétariat russe disposait d'un véritable parti révolutionnaire, d'une direction résolue, déterminée, énergique et décidée à aller jusqu'au bout. Et lorsqu'en février 1917, le prolétariat russe se lança en premier dans la lutte révolutionnaire, la principale force du parti bolchévique fut d'exprimer la volonté de millions de prolétaires et de paysans russes. C'est grâce à la conjonction des deux, c'est-à-dire de l'énergie révolutionnaire des masses exploitées et de la détermination et de la compétence de la direction révolutionnaire résolue que représentait le parti bolchévique, que le prolétariat put prendre le pouvoir. Et ensuite qu'il put l'exercer à travers ses propres organisations de combat et se maintenir au pouvoir malgré une longue guerre civile doublée de l'intervention de pratiquement toutes les grandes puissances impérialistes contre la Révolution. Eh bien oui, nous nous revendiquons aussi de cet héritage-là, de l'héritage qu'ont incarné à l'époque les dirigeants de la Révolution russe et le principal d'entre eux, Lénine. Ce qu'il disait alors sur le rôle joué par l'État de la bourgeoisie, indépendamment de la forme de cet État, qu'il soit dictatorial ou à façade démocratique, eh bien c'est valable aujourd'hui encore. Comme est valable sa conception du parti nécessaire à la classe ouvrière pour s'émanciper. Pendant quelques années suivant la Révolution russe, le communisme a été incarné non seulement par des partis communistes numériquement importants, influents dans beaucoup de pays, dont la France, mais aussi en Russie par un État d'un genre nouveau qui, pour la première fois, ne représentait plus les intérêts d'une mince couche d'exploiteurs, mais ceux de la majorité exploitée de la population. Un État qui a été l'instrument de la classe ouvrière pour défendre sa révolution contre le retour de la bourgeoisie. Il fut aussi amené à prendre en main la gestion de l'économie du pays et commença à se développer sur des bases toutes différentes de celles du capitalisme, dont parlera tout à l'heure Nathalie Arthaud. La vague révolutionnaire qui, entre 1917 et, disons, 1921, balaya une partie importante de l'Europe, fut cependant arrêtée. La bourgeoisie européenne remporta cette première grande confrontation avec la classe ouvrière, avec l'aide décisive des dirigeants de la social-démocratie. Et la Russie révolutionnaire resta isolée dans un pays pauvre où le prolétariat ne représentait qu'une faible fraction de la population. Et elle n'eut pas une longue existence, à peine une dizaine d'années. Le prolétariat russe ne fut pas vaincu par le camp d'en face, par celui de la bourgeoisie. C'est au sein même de l'État créé par la classe ouvrière russe qu'apparut et se développa une bureaucratie qui, tout en conservant les bases économiques créées par la Révolution, l'étatisation des moyens de production, cherchait surtout à accroître et à consolider ses privilèges. Elle y parvint sous la direction d'un dirigeant issu de ses rangs, Staline. Et le Parti communiste au pouvoir cessa d'être révolutionnaire pour devenir le représentant de cette bureaucratie-là. Il entraîna rapidement dans son sillage les partis communistes des autres pays qui, tout en gardant leur étiquette communiste et tout en se parant des atours de la révolution russe, devinrent de fait des instruments obéissants à la diplomatie soviétique. Les éléments véritablement révolutionnaires de l'ancien parti bolchévique furent écartés par Staline, puis, à partir des années 30, ils furent assassinés et Trotsky lui-même le fut sur ordre de Staline en 1940. C'est pourtant au sein de ce courant communiste que se trouvaient les militants qui s'opposèrent à la montée du stalinisme, des militants qui se regroupèrent autour de Trotsky, qui s'opposaient aux privilèges bureaucratiques naissants, qui s'opposaient à la dénaturation des idées communistes au nom, justement, du communisme. Et le courant trotskiste a toujours combattu depuis ses origines l'évolution bureaucratique de l'Union soviétique. Pourchassés, réprimés, assassinés en Union soviétique même, isolés du mouvement ouvrier, calomniés dans les autres pays, en particulier ici en France, le courant trotskiste a cependant survécu. Mais il est resté et il reste encore très minoritaire à l'intérieur même du mouvement ouvrier. Nous, lutte ouvrière, nous nous revendiquons de l'héritage de Trotsky et en premier lieu de son analyse de la dégénérescence du premier pouvoir qui s'est revendiqué du communisme sur la base des idées communistes. C'est également Trotsky qui nous a légué la compréhension de deux faits politiques majeurs de son époque. D'abord, le fascisme, c'est-à-dire la mobilisation de la petite bourgeoisie ruinée par la crise pour briser la classe ouvrière. Et ensuite, les fronts populaires, c'est-à-dire la soumission politique du prolétariat à la bourgeoisie représentée par ses partis de gauche. Eh bien, à travers toutes ces vicissitudes de l'histoire, eh bien, nous sommes restés communistes. Et contrairement aux grands partis dont les noms portent encore les vestiges de leurs idéaux communistes et socialistes, qu'ils ont abandonnés depuis longtemps pour limiter leurs ambitions politiques à servir la bourgeoisie dans un gouvernement, eh bien nous n'avons rien à renier de ce que nous avons dit ou écrit il y a 20 ou 40 ans. Et devant la faillite du capitalisme, telle qu'elle se manifeste dans la crise actuelle, nous affirmons, oui, que l'avenir appartient au communisme.